Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Raison gardée, proposée par les Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Au micro aujourd'hui avec moi, il y a Charles aussi. Bonjour Charles.
Bonjour.
Et je présenterai plus précisément notre invitée tout à l'heure, Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors un petit mot d'abord pour nos auditeurs qui nous rejoindraient pour la première fois dans cette émission. La Fédération des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle est une fédération rattachée à la Fédération Nationale de la Libre Pensée, qui est un site sur lequel vous pouvez trouver notre déclaration de principe qui vous permet de savoir un peu qui nous sommes. Alors, je rappelle simplement que la Fédération des Libres Penseurs n'est pas un parti, ce n'est pas un syndicat, c'est une association indépendante de tous les partis. Elle vise à développer chez chacun l'esprit de libre examen et de tolérance. Et je trouve que si vous allez regarder ces temps-ci le site, vous y verrez assez bien tous les combats que mène la Fédération. Par exemple, sur la page d'accueil aujourd'hui, on peut voir des actions concernant la question de la laïcité, qui est vraiment le thème que nous traitons le plus, mais aussi des informations à propos du service national universel contre lequel nous luttons. Vous y trouverez aussi des actions et des informations concernant la façon dont l'Église catholique traite ou ne traite pas la question des abus sexuels sur mineurs correctement. Vous y trouverez aussi, puisque nous sommes mi-novembre, des informations sur les rassemblements pacifistes qui ont été organisés par les différentes fédérations en France. Juste après ces quelques jours de commémoration nationale, il est important de rappeler qu'il existe aussi des mouvements pacifistes qui s'expriment toujours aussi à cette occasion. Vous y verrez également que l'association se bat pour les libertés d'association et à ce titre, elle se bat contre la loi dite loi de séparatisme. Et nous, à Nancy, on sait qu'une association, le Bloc Lorrain, tombe sous le coup de cette loi, en tout cas d'après les services de l'État, et qu'une manifestation a eu lieu pour les soutenir. Vous pourrez trouver des informations aussi sur des opérations peut-être moins connues, comme l'opération Crayon Rouge, qui consiste à chercher à être débaptisé officiellement. Et puis, on y trouve par exemple des podcasts tout à fait intéressants, et je pense à une précédente émission que nous avions faite sur la question de la fin de vie. Nous aurons l'occasion d'en faire d'autres, hein, des émissions sur ce sujet. Et la Fédération Nationale dispose d'un créneau sur une autre radio, France Culture. Elle y a invité en septembre le responsable de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et vous pouvez, sur le site, lire le texte de cette intervention et podcaster cette émission si le sujet vous intéresse. Voilà un site très riche qui vous permet aussi, si vous descendez tout en bas, de vous abonner gratuitement à sa newsletter, ce qui vous permettra d'être informé. Et une petite actualité technique pour nous, nous avons changé d'adresse mail. Je vous la livre. Si vous voulez nous écrire un petit message, un petit commentaire sur ce que vous avez entendu ou si vous souhaitez qu'on aborde peut-être un sujet, si vous voulez proposer ce sujet et peut-être une intervention, n'hésitez pas à nous écrire à librepensée tout attaché sans accent 54 proton.me. Mi en anglais. Ah ouais, c'est en anglais. Désolé. Librepensée 54 sans accent proton.me. Voilà pour les petites informations que je voulais vous délivrer en ce début d'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Et comme souvent dans Raison gardée, on aime aborder les sujets avec parfois un petit peu de distance pour garder notre sang-froid. Alors peut-être cet été, même à partir de juin, avez-vous entendu souvent dans les médias des informations sur le recrutement de certains professeurs, ou plutôt de personnes qui vont jouer le rôle de professeur. Alors je pense en juin à des séries de reportages, notamment sur l'Académie de Versailles, qui a organisé, alors sur le modèle des speed dating, du job dating, mais qui appelait plutôt entretien de recrutement, qui durait une trentaine de minutes et qui avait pour objectif de recruter 2000 enseignants, si mes chiffres sont bons. À la suite de ces reportages, on a entendu aussi des journalistes qui témoignaient de leur expérience, puisqu'évidemment, ils s'étaient amusés à aller à ces rendez-vous pour voir comment cet entretien était traité. Et puis certains d'entre eux sont allés jusqu'à la formation qui était proposée ensuite. En creusant un peu dans le net, j'ai vu que finalement, ça fait quand même très très longtemps qu'on parle de ces recrutements un peu étonnants d'enseignants. J'ai même mis la main sur un vieil article de 2012, il a déjà plus de 10 ans, ces histoires de parents qui, ou de chefs d'établissement qui recrutent sur le bon coin. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire de pub sur un site de bonnes affaires proche de chez soi. Et il était question, je crois, de recruter. Le premier exemple que j'ai trouvé, c'était un professeur de technologie en Bretagne. Donc, c'est un sujet qui est important. Alors, notre objectif aujourd'hui n'est pas du tout de stigmatiser les personnes qui sont contractuelles, donc de l'éducation nationale, mais bien de réfléchir aux raisons de ce recrutement, au statut du contractuel aussi, pour le faire connaître, pour comprendre aussi ce que cela veut dire, et puis d'interroger, donc non pas la valeur et l'investissement des personnes engagées, mais le recours à la contractualisation dans la fonction publique, et particulièrement dans l'éducation nationale. Alors c'est un sujet qu'on va traiter très tranquillement, donc grâce à Isabelle. Rebonjour Isabelle.
Rebonjour Sylvie.
Alors est-ce que tu peux nous dire, alors Isabelle, tu étais professeure jusqu'à il y a peu, et tu es toujours très engagée pour la défense du métier.
Oui, parce que je suis retraitée de l'enseignement, donc je n'enseigne plus, je n'ai plus des classes devant moi, mais je n'ai pas tout à fait rompu le lien avec la profession, puisque je continue mes activités syndicales. Cadre dans lequel je me suis surtout intéressée au suivi, à l'accompagnement des collègues contractuels.
Peut-être certains vont-ils reconnaître ta voix, parce que tu étais à la permanence, tu répondais au téléphone, tu donnais toutes les informations utiles. Tu es vraiment une spécialiste de ces questions. Alors on va peut-être commencer par poser le mot, justement, par le définir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un contractuel dans l'éducation nationale ?
Un contractuel, qu'il soit dans l'éducation nationale ou dans n'importe quel autre secteur de la fonction publique, c'est un agent public qui est recruté sous contrat de droit public. Donc, y a, si c'est contractuel, c'est bien parce qu'il y a le lien par contrat. L'employeur public peut être le rectorat à l'échelle académique. Ça peut être la DSDEN à l'échelle du département.
La DSDEN.
DSDEN, c'est la direction départementale éducation nationale.
On aime bien les sigles hein, dans la
maison. Il va y en avoir plusieurs. C'est vrai que certains, on pense à les définir, et puis il y en a d'autres, on y est tellement habitué qu'on oublie que tout le monde n'est pas forcément maître du jargon. Ça peut être un établissement directement, ou ça peut être une collectivité territoriale aussi.
Pourquoi une collectivité territoriale ?
Alors, parce que il faut se poser la question de savoir pour quelles fonctions sont recrutés les contractuels. Il y a pas que des enseignants. Bon, il y a les enseignants, premier, deuxième degré ou même dans le supérieur, hein, niveau BTS par exemple, éventuellement même classe prépa, mais c'est quand même assez rare. Il y a les CPE, les conseillers principaux d'éducation. Il y a les gens qui sont dans la formation continue, hein, qui bossent dans les Greta, par exemple. Il y a les PsyEN, les anciens COPSI, hein, ceux qui s'occupent de l'orientation, psychologue orientation. Il y a les AED, les anciens surveillants qui s'appellent maintenant assistants d'éducation. Il y a les AESH, qui sont eux donc dans la fonction d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Et puis on a du personnel administratif, hein, secrétaire, etc. Aussi bien dans les gestions justement rectorat, direction départementale ou établissement. Il y a les infirmières qui peuvent être éventuellement aussi contractuelles. Et puis, il y a, donc pour revenir à la collectivité territoriale, ce qu'on appelle les ATE, ATTE, c'est-à-dire les gens qui ont les fonctions de la maintenance, travailler dans la cuisine, s'occuper du ménage. Et donc, voilà, ces gens-là, maintenant, ils sont, on dit, passés à la territoriale. Avant, ils étaient gérés par le rectorat, mais maintenant ils sont gérés par la région pour ce qui est du second degré et par le département, enfin second degré, lycée, c'est la région, et les collèges, c'est le conseil départemental, et puis les écoles, c'est les mairies. Voilà. Les mairies qui recrutent par exemple les ATSEM.
Donc là, c'est du personnel qui se présente à des entretiens auprès de donc une mairie, un conseil départemental, la région, pour ensuite être placé dans un établissement en fonction des besoins.
Alors, il y a des campagnes de recrutement. Mmh. Enfin, vous allez sur le site du conseil départemental ou du conseil régional, et puis vous allez voir qu'il y a des offres d'embauche. Hein.
Mmh. D'accord. Et les AESH, ceux qui assistent les enfants, qui accompagnent les enfants qui ont des besoins, on les appelait avant peut-être, moi-même je recherche le sigle, comment s'appelait avant les AESH ?
Il y a eu les AVS.
AVS,
mmh, oui. Mmh. Peut-être. Alors oui, c'est encore plus compliqué parce qu'ils peuvent être soit recrutés par la DSEN, soit recrutés par des établissements mutualisateurs, enfin gérés en fait, la gestion, oui.
Donc, ce ne sont pas forcément des situations qui sont simples. On aura sans doute l'occasion d'entrer dans le détail. Avant, on parlait de non-titulaires. On opposait simplement titulaires, non-titulaires. Parler de contractuels maintenant, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, les non-titulaires ont toujours été contractuels. Mais leur appellation d'agent non-titulaire, ça laissait quand même supposer que ces gens avaient vocation à devenir titulaires, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors que, d'ailleurs, ça a été un des objets du décret du 25 avril 2022, où ils ont retoiletté tous les articles concernant donc les dispositions de gestion de ces anciens non-titulaires pour remplacer par le mot contractuel. Et comme on dit, et je n'apprends rien à la prof de lettres, les mots ont un sens, mmh, et c'est donc volontaire. Parce que là, ça suppose quand même qu'il y a un changement de point de vue les contractuels sont supposés faire carrière comme contractuels. Et c'est un petit peu en lien avec ce qui s'est passé avec la mise en place de la loi Sauvadet en 2012, où les contractuels ont pu avoir accès au CDI. Donc, contrat à durée indéterminée. Alors, il y en a qui trouvent que c'est bien, et il y en a qui trouvent que c'est une sorte de précarisation à long terme, quoi. Hein, voilà.
Oui, parce que de fait, ils n'auront toujours pas acquis certains droits dont on va parler tout à l'heure, qui sont ceux de ceux qui sont vraiment titulaires, qui sont entrés dans le métier par la voie d'un concours.
Il y aura toujours le distinguo entre le contractuel de la fonction publique et puis le fonctionnaire. Mmh. A priori, dans la fonction publique, il devrait y avoir que des fonctionnaires. Mais il y a un changement de paradigme, hein, et de plus en plus, on voit que le nombre de fonctionnaires est appelé à régresser, tandis que le nombre de contractuels a bien vocation à augmenter. On est à peu près globalement sur toute la fonction publique, alors là c'est toute la fonction publique, hein, y compris la fonction hospitalière par exemple, on est à une moyenne de 20% de contractuels. Mmh.
Hein. Oui, c'est quand même...
Voilà, mais bon, après, suivant les domaines et suivant les périodes, il y a pu y avoir de grandes, grandes variations.
Est-ce qu'on saurait expliquer, est-ce qu'on sait dire un peu qui est le ou la contractuelle ? C'est-à-dire qui s'engage dans le métier par cette voie ?
Alors du coup, on ne peut pas continuer à parler de tous les contractuels du monde, même en se limitant à l'éducation nationale. Mais si je réduis le champ d'investigation aux enseignants, parce que c'est quand même ça que je connais le mieux finalement, les profils sont quand même variés. Hein. Ça va des candidats, des collègues relativement jeunes, qui veulent essayer le métier avant de passer le concours pour voir si ça leur plaît vraiment, voir un peu quoi ils retournent. D'autres qui ont déjà tenté le concours et qui l'ont raté et qui se disent je vais acquérir une expérience de terrain, je vais me former autrement. Et puis après, donc on peut peut-être en parler, il y a plusieurs voies d'accès au concours, il y a plusieurs types de concours. Il y a le concours externe. Donc qui s'adresse généralement à ceux qui sortent de la voie universitaire. Il y a le concours interne qui, lui, peut justement s'adresser à des collègues qui ont une certaine ancienneté. Et puis il y a d'autres concours professionnels ou concours réservés, dont on pourra aussi parler plus tard. Mais donc du coup, celui qui a une expérience d'enseignement déjà, celui ou celle qui a déjà une expérience d'enseignement, va pouvoir éventuellement devenir fonctionnaire en passant par une autre voie que la voie du concours externe. Il y en a d'autres qui envisagent une nouvelle carrière. Alors on a souvent l'exemple mis en avant de l'ingénieur qui a envie de devenir prof de maths, hein, notamment parce que il y a un manque cruel de vocation dans cette discipline. Ou bien des gens qui sont au chômage et qui se disent avec mes diplômes, pourquoi pas, j'essaierai d'être prof. Voilà. Mais
sans forcément avoir pensé à ce métier
au départ,
qui finalement, et qui peuvent aussi trouver
et
leur
souvent,
compte.
On a des gens qui sont très diplômés, mais qui ne trouvent pas de boulot dans la recherche, par exemple, des thésards, des doctorants qui disent il faudrait bien que je mange, donc ils deviennent profs. Donc les profils sont vraiment très, très disparates, très variés.
Mais dernièrement, dans mon établissement, il me semble que c'était une jeune personne qui avait, je ne sais plus exactement quelle formation, qui avait un petit parcours dans la banque, et qui, en fait, s'était toujours dit que l'enseignement pouvait lui plaire. Parce que c'est vrai que quand on pense à quelqu'un qui est recruté par la voie de ce contrat, c'est ce que tu disais un peu, il y a des personnes qui ont envie de faire ce métier, mais qui, pour l'instant, par la voie du concours, n'ont pas réussi à y accéder, donc utilisent cette voie-là, puis d'autres personnes qui, effectivement, avaient un autre métier et qui ont besoin de changer, ou bien qui avaient envie quand même de faire ce métier, mais peut-être ne s'autorisaient pas à se le dire, ou se demandaient comment avoir une expérience, et qui entrent par la voie du contrat, finissent par quitter officiellement leur précédente fonction pour entrer après dans l'éducation nationale. Le risque peut-être, ce serait d'imaginer que quelqu'un qui devient contractuel le fait dans l'éducation nationale, le fait un peu par dépit. Quoi. Voilà, c'est pas forcément, c'est même souvent pas le cas, je pense, parce que c'est un métier qui exige quand même un peu de... un peu d'envie de la part de celui qui le fait et beaucoup d'investissement.
Je crois que très vite on se rend compte si on est fait pour ça ou pas.
Effectivement, plonger dans le grand bain. D'ailleurs, peut-être, est-ce que toi, tu avais commencé directement après avoir un concours, ou bien est-ce que tu avais commencé par...
Moi, j'ai aussi commencé, comme on dit, par la petite porte. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas de contractuel, on était maître auxiliaire. On parlait de MA, les maîtres auxiliaires. Et voilà, j'ai... J'avais tenté l'externe, mais l'année où j'ai passé ma maîtrise, donc j'avais pas du tout préparé, et comme c'était pas du tout le même type d'évaluation, j'avais cuté, mais lamentablement, admettons-le. Mais après, je voulais enseigner, je voulais être prof, ça c'est sûr, prof ou instit, mais j'étais foncièrement convaincue qu'il fallait instruire les gens. Moi, je voulais tout savoir, donc je voulais en faire profiter tout le monde, c'est dans mon ADN, je crois.
Je crois que cette envie-là, elle est fondamentale pour faire ce métier. Après, effectivement, les parcours qui y mènent peuvent être très très variés, et ça ne dit rien, répétons-le, de la qualité de la personne qui se trouve ensuite devant les enfants et devant les élèves. Donc effectivement, il y a les jeunes étudiants qui peuvent se dire, d'ailleurs je crois, mais ça pourrait être l'objet d'une autre émission, que l'organisation de la formation dans le cadre de l'université prévoit davantage peut-être de temps d'observation et un petit peu de pratique éventuellement dès la troisième année de faculté, il me semble. Et puis je crois qu'il y a un statut particulier pour ceux qui ont un handicap. Qu'il y a
Alors il y a les bénéficiaires d'obligations d'emploi, des gens qui effectivement souffrent d'un handicap et qui commencent par être contractuels et qui peuvent accéder à la titularisation par une voie qui leur est tout à fait propre, où il n'y a pas un concours à proprement parler, mais ils sont évalués par une inspection, quoi. Enfin, ils sont recrutés par les inspecteurs, par les IPR.
D'accord. Donc, les inspecteurs sont les responsables, aux yeux du rectorat et du ministère, de la compétences ou des qualités concernant le savoir disciplinaire.
Voilà, il y a des exigences de diplôme. Il y a des exigences de diplôme. Ensuite, donc, il y a entretien avec un jury composé d'au moins une dizaine de personnes. Ensuite, ils sont stagiaires, suivis par un tuteur, etc. Et seulement après, ils sont éventuellement validés. Hein, voilà.
Alors, est-ce que le contractuel a des, quand même des similitudes avec les titulaires ? Qu'est-ce qui les rassemble, à part le fait d'enseigner, bien sûr, d'être devant la classe, mais...
Alors, d'un point de vue statutaire, ils ont les mêmes obligations et les mêmes devoirs que les titulaires. Les mêmes obligations de service, les mêmes obligations d'obéissance à la hiérarchie. En tant que fonctionnaire, n'est-ce pas ?
Le fonctionnaire exécute,
voilà. Ils ont les mêmes obligations de... alors, peut-être pas de réserve, mais une forme de neutralité, pas de prosélytisme, etc. Bon, des choses qui sont... ça s'entend, quoi, qu'ils y soient soumis.
Oui, le professeur, quel que soit son statut, n'a pas à exprimer ses choix politiques, ses choix religieux. Cette neutralité correspond aussi à la laïcité. Bien sûr.
Il n'a pas non plus à divulguer à l'extérieur des choses qui concernent ses élèves, par exemple, ou ses collègues. Bref, le respect mutuel est de mise, oui. Alors après, il y a beaucoup de différences. Donc il y a déjà le statut, ça c'est énorme, une différence entre contrat de droit public et puis statut de fonctionnaire avec un régime de droit public également. Et pour accéder au statut de fonctionnaire, il faut absolument avoir le concours ou l'équivalent d'un concours. Mais bon, s'il n'y a pas le concours, il n'y a pas le statut. Ça, c'est comme ça depuis très longtemps dans notre pays. Et lorsqu'on a le concours, on a, comme je disais tout à l'heure, une année de stage. Une année de stage avec une formation... À l'INSP, Institut National du Professorat
et de l'éducation.
Voilà.
Alors qu'effectivement, c'est ce que les journalistes mettaient en relief dans leur traitement du recrutement des personnes par contrat, c'était l'idée qu'en 3 jours, 4 jours, les gens allaient être formés, alors que...
Il y a même des académies où il ne se passe rien du tout, quoi. La formation... pour les gens qui sont recrutés, pour les néo-recrutés, comme on dit, ceux qui entrent dans le métier, on va leur offrir dans le plan de formation académique ce qu'on appelle des formations pour public désigné. Donc ils vont avoir peut-être 2 jours, 4 jours. Enfin, il y a deux jours ou 4 jours de formation qui est inscrite au PAF,
au plan de formation officiel,
voilà. Mais alors, il va y avoir une invitation qui va être envoyée. Souvent, elle ne l'aurait pas envoyée nominativement. Elle est envoyée à l'établissement. Alors, il faut encore que l'établissement fasse le relais. Et parfois, il y a des chefs d'établissement qui disent, qui oublient, avec des gros guillemets. Ou bien qui donnent l'info, ah mais c'est trop tard, c'est déjà passé. Ou bien qui disent, bah c'est d'accord, mais vous me rattrapez les heures.
Alors que normalement, la formation est obligatoire,
les deux droits, quoi. Enfin bref, donc c'est pas du tout quelque chose qui est, on va dire, une priorité à la base. Voilà.
Est-ce qu'ils touchent le même salaire, puisqu'ils ont les mêmes obligations de service?
Ah ouais, il y a une sorte de logique dans la question à orienter, mais non, c'est pas du tout la même grille indiciaire. Non, pas du tout. Bon, ça, je sais pas si je développe maintenant ou si on en parle plus tard. Mais la grille, c'est pas du tout la même.
Bah, est-ce qu'on peut en parler alors
Alors,
donc, cette grille.
Les contractuels, donc, ils sont recrutés. Alors, il y a deux catégories, normalement. Il y en a trois, même. Il y a catégorie 1 et catégorie 2. Et ces catégories dépendent du niveau de diplôme. Si on est en dessous de la L3, en dessous du niveau licence, on est en catégorie 2. Et si on est au-dessus, on est en catégorie 1. Et puis, on peut éventuellement être en hors catégorie. Mais généralement, ça concerne que ceux qui sont dans le supérieur. Si on est en catégorie 1, c'est quand même, pour le second degré, c'est la plus répandue. Les catégories 2, c'est ceux qui sont en dessous de la licence, c'est quand même souvent dans les lycées pro.
D'accord.
Et souvent, c'est compensé par une autre forme de compétence. C'est souvent des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, justement. Donc, quand on est catégorie 1, on est recruté à l'indice 367.
Parce que voilà, dans la fonction publique, ça fonctionne par système d'indices c'est la grille en fait, elle fonctionne par indice et en fonction de l'indice correspond à un traitement.
Alors après, pour avoir le salaire, on multiplie par le point d'indice qui est à 4,85 euros je crois maintenant. Donc voilà, et puis il suffit de multiplier l'indice par la valeur du point d'indice et on obtient le salaire brut.
Alors on sait, parce qu'on en parle aussi dans les médias, que même les jeunes professeurs recrutés par la voie du concours, notamment par le concours du CAPES, ne roulent pas sur l'or à leur entrée dans l'éducation nationale malgré leur formation. Ils sont quand même à bac plus 5 officiellement, et ils sont vraiment très très mal payés. Alors on sait qu'il est toujours question de les augmenter, mais alors les contractuels sont bien un peu en dessous de cette grille.
Alors ils démarrent à l'indice 367, et par comparaison, effectivement, un certifié il va démarrer à l'indice 390. Donc il y en a un qui gagne 1400 euros net et l'autre qui va gagner 1450. Donc effectivement, à la base, ils sont vraiment très proches l'un de l'autre. Sauf que le certifié, lui, il va quand même beaucoup plus vite progresser dans la carrière. Parce qu'à l'indice 390, il va y rester, je crois que c'est un an, je crois. Et puis il va quand même rapidement accéder à un indice supérieur. Oui, c'est ce que je disais, il va rester un an à l'indice 390, il va passer à l'indice 441, il va y rester deux ans, après il va être à l'indice 448, il va y rester quatre ans, etc. Et la grille, elle va monter comme ça jusqu'à 673, et puis si on passe à la hors classe, on va pouvoir accéder jusqu'à 821.
Ouais, des millions.
Et puis après, à la classe exceptionnelle, jusqu'à 972, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce pognon ? Enfin bref. Pardon, je m'égare. Alors que le contractuel, il va lui être pendant. Alors, là aussi, une grosse différence qui concerne les contractuels avec les fonctionnaires, c'est que les contractuels sont gérés localement, enfin sont gérés par académie, et il peut y avoir de grandes disparités d'une académie à l'autre. Par exemple, dans notre académie, on a réussi à obtenir, quand il y a eu les négociations autour du décret de 2014, on a réussi à obtenir que les néo-recrutés restent à l'indice 367 seulement pendant deux ans. Ensuite, ils vont changer d'indice, ils vont passer à l'indice 388. Donc vous voyez déjà aussi que le changement d'indice, c'est pas du tout le même écart en nombre. Donc les salaires progressent beaucoup moins vite. Alors donc nous, il reste que deux ans. Mais dans certaines académies, ils peuvent rester qu'un an, et dans d'autres, ils vont rester trois ans. Donc la progression dans la carrière n'est pas du tout la même.
Ah oui, parce que comme le titulaire, lui, est engagé par le ministère de l'Éducation nationale, la grille est la même pour tout professeur titulaire sur le territoire.
C'est homogène sur l'ensemble du territoire national.
Alors que qui dit contrat, dit discussion du contrat avec l'employeur lui-même. Et là, comme l'employeur est un rectorat, l'occurrence pour les enseignants, on peut discuter, on peut obtenir
Il y a des différences après qui peuvent même devenir très importantes. C'est souvent dans les LP quand même, parce qu'il y a des disciplines qui sont rares et qui demandent un niveau de compétence très important, et où là on peut dire que le contractuel il peut négocier son salaire, mais bon, c'est quand même pas la majorité. C'est comme quand il y a eu justement, on parlait des polémiques à la rentrée 2022. Alors c'est vrai qu'il y a des académies, ils sont tellement en recherche, ils sont tellement c'est tellement, le niveau de recrutement est tellement difficile qu'ils en ont été arrivés à augmenter le salaire pour rendre ça attractif, mais c'est bon, c'est Créteil Versailles, c'est pas la situation la plus générale sur l'ensemble du territoire.
C'est effectivement un sujet important, c'est pourquoi on en vient à recruter autant de contractuels. Le sujet est vraiment vaste. Isabelle, je te remercie pour ton intervention aujourd'hui, et nous te retrouverons lors de notre prochaine émission pour continuer à creuser cette question du recours aux contractuels et les problèmes que peuvent poser la contractualisation elle-même. Et on finit en chanson avec quelques notes de Supertramp. À bientôt.